Bienvenue sur e-commerçons, le podcast qui permet aux e-commerce d'atteindre leur plein potentiel. Je m'appelle Pierre Batty, je suis le cofondateur de Ceos et notre travail est d'accompagner les sites e-commerce pour qu'ils puissent enfin maximiser la rentabilité de leur budget Google Ads et SEA. Dans ce podcast, j'invite les meilleurs experts sur les compétences indispensables aux e-commerçants ambitieux. On va parler acquisition, optimisation de site, email, logistique, stratégie e-commerce et tous les autres leviers qui permettent de construire un e-commerce rentable et pérenne. Chaque épisode a été pensé pour que vous puissiez en ressortir des astuces et un plan d'action que vous pourrez appliquer immédiatement sur votre business. Retrouvez dans la description de chaque épisode une fiche récapitulative et des ressources complémentaires. Si ce podcast vous plaît, pensez à le partager, à vous abonner et à me laisser une note dans la section notes et avis d'Apple Podcast. Si vous souhaitez vous-même être accompagné par Ceos sur Google Ads, vous pouvez vous rendre sur le site ceos.fr ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. Je vous laisse avec mon invité du jour. Bonne écoute!
Écoute, Tim, bienvenue sur ce podcast. Je suis ravi de t'accueillir à nouveau aujourd'hui.
Merci à toi de m'inviter. Enfin, en fait, c'est nous qui t'invitons. Mais
c'est en fait ça. Je suis à nouveau invité dans les bureaux de Big Blue. On avait fait un podcast ensemble il y a quelques mois. On avait parlé un peu de la logistique, de tout ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut mettre en place sa logistique. J'ai réussi à te prendre 25 minutes de ton temps. Aujourd'hui, on va faire un épisode express sur le marketing de la logistique. Prêt à relever le défi ?
C'est parti.
Ok, super, trop cool. Peut-être je vais te laisser quand même te présenter au début, que tu m'expliques qui tu es, au moins que les auditeurs qui écoutent ce podcast, qui n'ont pas écouté l'autre, ne sachent à qui ils ont affaire.
Il faut qu'ils écoutent l'autre, mais je suis Tim Dumain. Je suis un des cofondateurs de Big Blue. On est une solution logistique pour le e-commerce. Notre approche, elle est beaucoup plus expérientielle que juste purement logistique. Et l'idée, c'est qu'on augmente le chiffre d'affaires des marques au travers d'une logistique, une expérience de livraison qui soit incroyable. Et quand je parle d'augmenter le chiffre d'affaires, il y a là tout ce qui est amont, augmentation de la conversion, mais aussi l'aval, l'augmentation de la lifetime value au travers de plus de repeat business, etc. Et donc, je pense que c'est de ça qu'on va parler.
Exactement. Le sujet du jour, c'est comment utiliser la logistique, tu vois, dans son flux marketing. On sait que la logistique aujourd'hui, c'est quand même un enjeu majeur. Je pense notamment, tu vois, la livraison gratuite, c'est quand même... j'avais vu un peu les différentes études, les trucs qui te limitent le plus, tu vois, sur un site à la conversion, le truc numéro un, c'est les frais de livraison. Ouais. Sur un site e-commerce, les frais de livraison, c'est la première limite. Donc, clairement, c'est un point logistique. J'aimerais bien qu'on découpe cet épisode en gros en trois grandes étapes. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois, mais tu vas me dire ce que tu en penses. C'est tout ce qui est la logistique pour l'aide à la conversion, ce que tu disais tout à l'heure. Tout ce qui est la logistique pendant la livraison, c'est-à-dire avant que je reçoive mon colis. Le dernier aspect, c'est tout ce qui est après la livraison. Donc, c'est-à-dire soit une partie, c'est l'expérience. Et puis aussi, je pense au retour. Ouais. Les marques qui vont avoir des retours.
Oh, très bien.
Je te propose qu'on commence avec la partie conversion. Quelles sont pour toi un peu les bonnes pratiques déjà de la logistique en amont d'achat ?
Ouais. On parlait de logistique gratuite. On peut commencer. Alors non, je vais commencer par autre chose. Je vais commencer je crois que j'en avais parlé la dernière fois, par les différentes typologies de transporteurs que tu peux, enfin les différentes offres que tu peux proposer à tes clients. Tu peux pas juste proposer une offre de transport parce que les personnes à qui tu vas livrer tes produits, ils vont avoir différentes problématiques. Tu vas avoir un père de famille qui va faire du home office ou alors qui va être père au foyer. Il va vouloir être livré à la maison. Ok, tu as quelqu'un qui bosse dans son bureau, qui n'a personne à la maison. Peut-être qu'il voudra être livré. Cette personne-là voudra être livrée dans un relais. Et tu as une personne qui doit faire un cadeau. Si ton produit, c'est un produit cadeau, qui va vouloir être livré le lendemain ou le surlendemain parce qu'il y a l'anniversaire du filleul qui se passe dans pas longtemps. Et en fait, tu dois absolument t'adapter à ces différentes typologies. Et tu ne peux pas prédire. C'est-à-dire que tu as des marques qui vont un peu tricher, qui vont mettre de l'express pour tout le monde, mais ça coûte cher. La plupart du temps, écologiquement parlant, ce n'est pas ouf. Tu as beaucoup de transporteurs expressistes qui prennent l'avion, etc. Donc, tu as envie d'éviter de faire ça. Moi, ce que je conseille, c'est de laisser le choix. De laisser trois choix. Un choix de livraison express, un choix de livraison standard, qu'on appelle standard, et un choix de livraison en point relais. ça, c'est un peu le... Après, tout est adaptable. Ça dépend de vos typologies de produits. Il y a des produits qui vont être des produits lourds, des produits surgelés, des transporteurs surgelés. Il n'y en a pas beaucoup, donc tu n'auras pas le choix de faire du relais, par exemple. Mais bon, je parle en termes généraux. Trois typologies de livraison, avec toujours l'express plus cher. C'est un service en plus. Mais par contre, je conseille vraiment de mettre le relais et le standard au même prix. On prend souvent le point relais comme étant une option cheap, mais en fait non, c'est une option plus alors convenient,
plus pratique, plus facile.
Plus pratique, ouais. Oh, l'enfer du gars, quoi. Insupportable. Oui, du coup, c'est une solution qui est plus pratique pour la plupart des gens qui l'utilisent. Et t'as des personnes qui ne jurent que par ça. Moi, j'ai changé d'appart depuis, mais dans mon précédent appart, j'avais un point relais qui était littéralement à 10 mètres de chez moi. Et en fait, j'avais pas de gardien, j'avais personne. Donc, c'était presque mon gardien, tu vois. Et je préférais largement le relais. Et quand un site proposait pas le relais, je savais que ça allait être une galère de me faire livrer chez moi. Quand un site proposait pas le relais, en fait, je commandais pas. Parce que j'avais une boîte aux lettres qui était fine comme ça, on mettait pas de colis dedans. Et la plupart du temps, il y avait les livreurs qui m'appelaient, j'étais au boulot, je répondais pas, etc. Donc, impossible. Donc, tu vois, c'est des cas. Et en fait, des cas comme ça, t'en as plein. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la livraison gratuite. La livraison gratuite, de base, faire du gratuit tout le temps, ça marche. Ça marche bien. Mais c'est vrai que tu peux faire la livraison, tu peux déclencher une livraison gratuite en fonction d'un certain panier. Alors là, si on veut parler un peu data, moi, je considère que si tu as un panier, un AOV, un panier moyen aux alentours de 30 euros, il faudrait que ta livraison gratuite elle soit environ à 40 euros. Donc, tu as deux manières de voir les choses. Soit tu le mets au prix, à un prix qui oblige tes clients à prendre un deuxième produit. Soit tu, quand tu as peu de produits, mettons, tu as 10 produits différents, tu vois. Ton produit, ton minimum produit, c'est 30 euros. Si tu le mets à ton panier moyen, enfin si tu mets ta livraison gratuite à 35 euros et que ton plus petit produit c'est 30 euros, bah forcément quand ils prennent deux produits, ils vont monter à 60 euros de panier moyen. Je sais pas si tu suis. Ouais. Et en fait, t'es pas obligé de mettre ta livraison gratuite très très élevée. T'es pas obligé de le mettre jusqu'à 60 euros parce que plus la livraison gratuite est basse, plus tu vas avoir une incentive à commander plus de produits dans ton panier. Et en fait, si le produit le moins cher, bah, c'est 30 euros, bah, directement, ton panier il va augmenter à 60 euros. Je ne sais pas si c'était hyper clair, mais t'as compris ?
Ouais, j'ai très bien compris. Mais du coup, une des questions que je me pose, et je ne sais pas si tu as de la data sur cette partie, c'est, supposons, on reprend notre cas où notre panier, enfin, notre plus petit produit, il est à 30 euros, notre livraison gratuite, elle est à 35 euros. En fait, la réalité, c'est, est-ce que la personne, elle va se dire, bah oui, je remets 30 euros dans mon panier, je monte à 60. Ou est-ce qu'en fait, elle va se dire, de toute façon, je vais payer la livraison. Dans tous les cas, ce sera beaucoup moins cher que de racheter un produit en entier. Est-ce que tu as...
Alors, moi, je suis un fervent défenseur du test. Test, tu verras bien, tu vois. Si ça ne marche pas pour toi, ça ne marche pas pour toi. Et puis, c'est tout, quoi. Mais la plupart du temps, moi, ce que j'ai vu, les datas que j'ai vues, c'est que effectivement, quand tu mets un panier, une livraison gratuite, plus haute que ton panier moyen, ton panier moyen, il augmente. Et t'as pas forcément de friction. Donc, il y a deux choses qu'il faut que tu regardes. C'est est-ce que ça réduit ta conversion ? Est-ce que ton panier moyen augmente ? Parce qu'il faut pas non plus que ton panier moyen augmente, mais que ta conversion soit détruite, quoi. Donc, vraiment regarder ces deux paramètres-là. Ensuite, tu peux aussi offrir certaines typologies de transport. C'est-à-dire que tu peux très bien dire, tout à l'heure, on parlait de l'express. Tu peux très bien offrir l'express à un certain niveau, offrir le standard à un certain niveau. Après, il y a des marques qui réduisent le coût du transport. C'est-à-dire que si tu as un panier à 50 euros, ça va être 2 euros de livraison. En dessous, ça va être 4 euros. Et à plus de 100 euros, ça va être 0. Tu vois. Moi, je pense que dès que c'est un peu plus compliqué, ça ajoute de la friction. Je n'ai pas forcément les datas et les résultats là-dessus. Je sais qu'il y a des grosses marques qui le font. Mais je pense que c'est juste ajouter de la friction supplémentaire. Et ce n'est pas forcément efficace. Donc voilà le truc que tu peux mettre de base en place, c'est regarder ton panier moyen. Tu fais un peu plus élevé que ton panier moyen et tu en profites pour augmenter ton chiffre. Mais dans tous les cas, offrir de la livraison gratuite, c'est à peu près obligatoire. Okay. C'est-à-dire que ça soit gratuit pour tout, si tu peux te le permettre, ou gratuit en fonction d'un certain panier moyen, c'est impératif parce que c'est un enjeu de conversion. Il y a plein de personnes qui ne commandent pas s'ils n'ont pas une possibilité d'avoir la livraison gratuite.
En fait, c'est exactement ce que ça rejoignait un peu le, et ça rejoint un peu ce que je vois aussi dans ce qu'on met dans les ads. C'est sur Google Ads, c'est un truc qu'on met vachement en avant, c'est la livraison gratuite. Et tu vois que dans les performances, les meilleurs taux de clics sont aussi souvent sur ce type d'avantages directement dans les ads. Est-ce que, juste pour finir sur la partie des différents types de livraison que tu offres, est-ce que tu as un prix, par exemple, sur le standard ou point relais? C'est quoi le prix de départ idéal? Est-ce que tu as un peu de données ou des infos sur ça?
Ouais, alors, ça dépend de ton produit. Mais c'est vrai que le 4,90, ça marche bien. C'est moins de 5 euros, donc tu peux le mettre. En même temps, c'est un peu significatif. C'est-à-dire, c'est aussi toi, ta stratégie. Qu'est-ce que tu veux couvrir et comment tu veux le couvrir? Moi, si tu as un produit où le prix est assez élastique, donc tu n'as pas trop de concurrence sur des mêmes typologies de produits, tu vois, je conseille d'inclure une grosse partie du prix de la logistique dans le prix du produit. Parce que c'est plus facile. Tu parlais des biais cognitifs, hein, tu parlais de ce que vous mettez dans les ads. C'est plus facile pour quelqu'un d'accepter le fait que le produit soit à 35 euros livraison gratuite qu'un produit à 30 euros et 5 euros de livraison. C'est le même panier, mais c'est beaucoup plus facile. Parce qu'ils sont déjà plus ou moins convaincus que bon, le produit il vaut 35 euros. Si derrière, ils découvrent que la livraison elle est gratuite, c'est facile. Donc en fait, on parle de conversion, mais le conversion, c'est un funnel. Tu vois, tu as plein de petites étapes où tu as des gens qui dropent. Tu as des gens qui dropent en voyant la pub. Ils cliquent pas dessus, quoi. Tu as des personnes qui cliquent et qui dropent en voyant la landing. Tu as des personnes qui mettent au panier qui dropent en mettant au panier. Enfin, voilà. Et ton objectif, c'est que cette personne, elle aille à chaque étape, quoi, à la prochaine étape. Et du coup, pour aller de... Parce que la livraison, souvent, tu te découvres dans le panier. Pour aller du panier à l'achat, à l'acte d'achat, il faut qu'il y ait le moins de friction possible. Et pour moi, c'est une des meilleures manières d'éviter la friction. Mais si on veut, il y a un peu des paliers mentaux, les 2,90€, 4,90€, 9,90€, ça fonctionne plutôt bien. Donc en gros, 2,90€, quand tu as des clients qui sont un peu cheap, qui ne veulent pas mettre d'argent là-dedans, ça marche bien, c'est un peu le minimum. Tu vois, tu mets 2,90€, tu n'as pas l'impression de te faire arnaquer. 4,90€, quand tu as un produit qui est un peu plus cher ou tu as des gens qui sont plus aisés, 4,90€, tu vois, tu as déjà un panier à 100 balles, 4,90€, ça va. Et 9,90€, souvent pour l'express, c'est pas mal, ça marche bien.
Okay.
Voilà. Après, à 9,90€, tu vas couvrir la majeure partie de tes frais d'express. 4,90€, tu vas couvrir la majeure partie de tes frais relais, tes frais standards. Donc pour toi, c'est un bon calcul la plupart du temps.
Okay, ouais, ça te permet de ne pas forcément supporter trop le poids de la livraison tout en offrant une expérience minimum correcte à tes clients.
Exactement.
Y a un point que tu disais tout à l'heure qui est intéressant, c'est on découvre le prix des produits dans le panier, le prix de la livraison pardon, dans le panier, même parfois on le découvre bien plus tard, c'est-à-dire juste au moment où tu as rentré déjà tes informations personnelles. Je pense qu'il y a quand même un enjeu sur remonter le prix ou le coût d'une livraison assez tôt, de l'informer en tout cas. Est-ce que c'est des choses que tu as vues? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous bossez un peu ou comment tu...
Alors, non. Et je le vois peu. Et on ne le bosse pas dessus. Et pour une bonne raison. C'est qu'il y a une différence entre avant-panier et après-panier. C'est qu'au panier, tu as mis ton adresse mail. En fait, c'est plus facile d'aller renvoyer des emails, d'aller convaincre quelqu'un de revenir sur son panier quand tu as son email que quand tu ne l'as pas. Et si quelqu'un voit le prix de la logistique, du transport trop tôt et qu'il drop, que cette personne-là drop avant d'avoir donné son adresse email, tu l'as perdu pour la vie. Enfin, tu es un expert en ads, tu sais très bien que quand tu n'as pas d'adresse email, tu ne fais rien. Tu vois, c'est juste...
Ouais, c'est du vent. Quoi,
c'est du vent. C'est du vent. Donc en fait, tu as tout intérêt à récupérer cette adresse email et pouvoir faire un flow email panier abandonné pour pouvoir récupérer la personne. Et les flows email panier abandonné fonctionnent hyper bien. Email Club, si tu me regardes, il y a d'autres agences, mais j'aime bien Email Club. C'est un excellent moyen de récupérer des gens et de récupérer des paniers. Donc moi, je ne recommande pas, non.
Ok. Quand on parle de, justement de logistique, on parle du coût du coût, donc chercher à avoir le moins cher possible, potentiellement livraison gratuite. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est la rapidité de livraison. Je trouve que Amazon a particulièrement joué sur ça et a mis dans la tête des gens que la livraison, elle se faisait en 24 heures. Comment tu peux réussir à utiliser justement la livraison rapide ou la rapidité de livraison ou les délais de livraison en tout cas pour en fait prévenir les gens de quand est-ce qu'ils vont recevoir leurs produits et dans ton tunnel et mieux convertir quoi.
Ouais. Alors, par contre, ça, c'est important de le faire remonter le plus tôt possible. Et tu parlais des pubs. Nous, c'est quelque chose sur lequel on a envie de bosser de plus en plus. Nous, on a développé quelque chose qui s'appelle les fast tags. Donc, les fast tags, je réexplique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent du badge Amazon Prime qui te permet de montrer la date d'arrivée exacte de la marchandise directement dans tes pages produits en fonction de ton code postal. En fonction de ta localisation. Du coup, nous, on détecte automatiquement la localisation. Parfois, si tu as un VPN ou un truc comme ça, on se plante, donc tu peux le changer. Tu peux changer dynamiquement, comme sur Amazon. Tu cliques dessus, tu changes ton code postal et ça va te recalculer les délais de livraison. Et ça, c'est incroyable en termes d'amélioration de la conversion. Nous, entre les moments où le fast tag est activé et les moments où il ne l'est pas, donc sur une même expérience Big Blue, on a entre 20 et 25% de conversion supplémentaire sur les clients qui l'utilisent. Et du coup, 20-25% de conversion supplémentaire, c'est énorme en termes de chiffre d'affaires supplémentaire. C'est vraiment beaucoup. Il y a plusieurs endroits où il faut montrer des informations. Donc nous, on est en train de bosser, en train de réfléchir à des idées pour faire remonter cette information-là même encore plus en amont dans les publicités. Donc ça serait une bonne amélioration. Nos tags, de plus en plus, on va vouloir le mettre dans d'autres pages du site web, pouvoir utiliser ces informations pour mieux convertir partout sur le site web. Et après, on montre ce qu'on appelle un ETA, donc Estimated Time of Arrival, des produits directement dans le checkout. C'est-à-dire que je te parlais des trois options. Mais en fait, chaque option, tu montres une date d'arrivée exacte de la marchandise. Parce que là, c'est bon, tu as l'adresse, tu as toutes les informations, tu peux dire exactement quand est-ce que la date va arriver. Et ça amène de la certitude. On parlait tout à l'heure de différents cas de personnes. Tu as une personne qui, le lundi, elle est en remote à la maison, le mardi, au bureau, le mercredi, part en voyage. Tu vois, c'est pas pareil pour cette personne-là si tu livres mercredi ou si tu livres lundi. Sauf qu'aujourd'hui, on est jeudi, il y a écrit 2 à 5 jours ouvrés. Ça veut dire quoi, tu vois? Ça veut dire quoi pour la personne qui commande? Ça veut dire que tu vas recevoir dans 2 jours, donc, est-ce que tu vas recevoir... On n'est pas jeudi aujourd'hui, on est vendredi.
Aujourd'hui,
on est mercredi.
On est mercredi.
Pardon, le mec est perdu. Donc ok, mettons qu'on est mercredi aujourd'hui.
Soit tu reçois vendredi.
Tu reçois vendredi.
Ou samedi.
Est-ce que tu reçois samedi? Est-ce que tu reçois lundi? Est-ce que tu reçois... Enfin, en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens et ça veut, en fait 3 à 5 jours ouvrés, ça ne veut plus rien dire, plus personne n'est dupe. Et bon, je vais beaucoup faire référence à Amazon. Amazon, ils l'ont très bien compris, ils affichent la date exacte d'arrivée de la marchandise depuis très longtemps. Et c'est comme ça qu'ils convertissent mieux. Il faut savoir que Prime, quand ils ont commencé Prime en France, ils ont doublé leur chiffre d'affaires en une année.
C'est extrêmement impressionnant. Est-ce que toi, tu, sur cette partie justement d'indiquer précisément la date de livraison, est-ce que ça rentrait dans ce que tu me disais des fast tags tout à l'heure en termes d'amélioration du taux de conversion ou est-ce que c'est peut-être d'autres chiffres à côté?
Alors nous, on voit 5% d'amélioration en plus si tu affiches les ETA dans le checkout.
Okay.
Mais le checkout, c'est souvent des personnes qui sont déjà assez déterminées. Ça améliore un petit peu. On va voir. Nous, on est toujours en constante amélioration. On essaie d'apprendre tout le temps, voir si on peut encore améliorer ça.
C'est extrêmement intéressant. Donc, est-ce que toi, tu vois d'autres choses justement sur la partie avant l'achat, pré-conversion entre guillemets, pour améliorer le taux de conversion, de choses qui seraient liées à la logistique? On a parlé de la livraison gratuite, on a parlé des bons prix et des différentes options de livraison et des prix pour ces options de livraison. On a parlé des fast tags, on a parlé de la date à laquelle on allait livrer. Et il y a d'autres choses, tu penses un peu?
Oui. Alors, je vois une chose. C'est surtout pour les marques de prêt-à-porter, c'est les retours. Je pense qu'il y a un peu un mythe comme quoi sur les qu'il faut absolument que les retours soient compliqués. parce que si les retours c'est compliqué, tu auras moins de personnes qui vont retourner, du coup ça va un peu sauver ton chiffre. Mais en fait c'est pas vrai. C'est-à-dire que tout ce que tu vas gagner en ayant moins de retours, tu vas le perdre en LTV, en repeat business, et tu vas le perdre aussi en conversion, en vrai. Et je crois qu'on avait une data sur les sites qui ont beaucoup de retours, t'as 60% ou 70% des gens qui regardent les conditions ou les FAQ avant de commander. C'est-à-dire qu'ils regardent si les retours sont acceptés et combien de jours avant de commander. En fait, pour moi, tu as tout intérêt à le pousser, tu vois. Mais même sur le site, partout, mettre retour gratuit, 30 jours. Moi, j'avais un exemple, c'était une marque qui s'appelle Le Chemiseur, je crois. C'est une marque qui s'appelle Chemiseur, qui fait des pantalons sur mesure. Et en fait, tu te dis pantalons sur mesure, tu ne peux pas retourner. Enfin, c'est à tes mesures. En fait, eux, ils mettaient satisfait ou remboursé 100 jours. Et moi, je suis un peu grand, comme tu as pu le voir. J'ai besoin de pantalons à ma taille. Et du coup, je me suis dit, en vrai, j'ai pas de friction, quoi. Donc, j'ai pris mes mesures, j'ai fait mon pantalon. Et si je suis pas content, si c'est pas à ma taille, je le renverrai. Tu vois ? Et ils savent très bien, ils ont un taux. Hein, ils ont un taux de retour. C'est pris en considération dans leurs chiffres. Ils savent que c'est ça en moins sur leur marge. Mais ils savent aussi que c'est ça en moins dans leur coût marketing. C'est-à-dire que si ton site, grâce à ça, il convertit 25, 30, 50% de plus, et que ça augmente tes retours de 10%, oui, tu as eu la production de tes pantalons. Alors là, dans ce cas particulier, c'est difficile de les revendre parce que c'est déjà des pantalons sur mesure. Mais mettons que ton pantalon, il coûte 150 euros, il coûte 150 euros au client, et toi, tu l'as produit à 25 euros. En fait, ton coût, c'est que la production, l'envoi, quoi, tu vois. Il est vachement plus réduit. Alors oui, t'as de la vente en moins, mais t'as une personne qui va tomber folle dingue de ta marque aussi. Faut pas l'oublier, ça. C'est une personne qui n'aura aucun mal à recommander parce qu'elle sait très bien qu'elle va être bien traitée en care. C'est-à-dire que si tu gères bien son problème, forcément cette personne-là, elle va se dire j'ai eu une bonne expérience et j'ai eu un problème et ça s'est très bien géré derrière. Et va aussi parler d'expérience. Typiquement, je me disais, moi j'en ai déjà parlé peut-être 50 ou 100 fois.
Là, une nouvelle fois.
Non, mais et puis, il y en a d'autres. Alors, c'est une plus grosse marque, j'ai moins tendance à la citer, mais on la connaît tous, c'est Nike, parce que c'est moins proche de nous en termes de taille de marque. Et puis, il y en a plein qui critiquent Nike, mais Nike, pendant un temps, il faisait du retour 100 jours. Tu pouvais transpirer, tu pouvais les renvoyer avec de la boue, si tu n'étais pas satisfait. 100 jours de retour.
C'est assez exceptionnel quand même.
Mais personne ne retourne en fait. Parce que c'est soit tu n'es vraiment pas satisfait. Et dans ces cas-là, de toute manière, Nike n'a pas intérêt à ce que tu gardes la paire de pompes parce que tu vas être dans une paire de pompes où tu n'es pas bien et tu vas te créer une mauvaise image des paires de pompes Nike. Donc ils ont tout intérêt à te dire t'inquiète, on récupère le produit. Et je ne sais plus ce qu'ils en faisaient. Je crois qu'ils faisaient des donations. Ils les nettoyaient, ils faisaient des donations. Trop bien, tu vois. Ils ont tout intérêt à faire ça et te donner un bon de réduction, un truc comme ça que tu pourrais utiliser sur le site parce que tu vas utiliser un produit dans lequel tu te sens bien. Tu vas acheter un produit dans lequel tu te sens bien. Et voilà.
Ouais, ils ont tout intérêt en soi à ce que ton expérience elle soit maximale parce que tu vas racheter, parce que tu vas en parler positivement.
Exactement.
Etc.
Et alors, j'ai une objection. C'est toujours un peu la même. C'est ouais, mais bon... En vrai, il y a des gens qui en abusent. Oui, tu as des gens qui en abusent. Mais en fait, ça se traite, c'est de l'humain. Tu vois, tu as quelqu'un, tu vois, qui en abuse, tu le contactes, tu dis, écoute, tu es un peu en train d'abuser. Je t'avoue qu'il faudrait que... Enfin, si c'est pas normal que tu commandes 50 pantalons pour en garder qu'un seul. Quoi. Nous, on peut... Enfin, tu vois, on est une petite boîte. Si tu fais ça, on va mourir, quoi. Et je pense qu'il faut gérer ça en même. Tu peux pas punir la masse parce que tu as quelques comportements indécents.
Ouais, c'est intéressant à voir parce que je pense que tu as vachement cette limite, la limite que le e-commerçant va se mettre en mode oui, mais non, mais il y en a qui vont abuser, c'est sûr. Alors qu'en fait, en réalité, la majorité des gens sont honnêtes et il y a toujours 2-3 cas
qui. Toujours qui abusent, mais c'est très très réduit.
Est-ce que tu as d'autres choses en amont d'achat ou
je crois qu'on a pas mal de choses là. Ouais.
Je te propose qu'on passe sur la partie. Avant de recevoir sa commande, je pense que là, c'est surtout un gros enjeu autour du suivi. Quelles sont un peu pour toi les bonnes pratiques justement sur cette partie suivi, sur accompagner le client dans l'attente de son produit ? Parce que c'est vrai que tu as cette frustration de te dire j'ai dépensé, je n'ai pas mon produit.
Ouais, alors je vais un peu t'arroser de data.
Vas-y, on est prêt.
On est prêt. Non, non, en vrai, pas tant que ça. Mais un email de suivi. Alors déjà, fais des emails de suivi.
C'est quoi le minimum des emails de suivi pour avoir une idée?
C'est pas ce que Shopify permet de faire. C'est-à-dire que Shopify permet pas le minimum. Shopify aujourd'hui, c'est un email de confirmation de commande, un email comme quoi
le produit a été traité en tant que commande, c'est l'expédition en fait.
C'est pas l'expédition, enfin c'est quand ton tracking a été généré. Voilà, le tracking a été généré, mais souvent trop en amont. C'est-à-dire que tu cliques sur le tracking, ben en fait il y a rien qui se passe, et t'as un email pour la livraison. Ça c'est pas du tout assez. C'est pas assez parce qu'en fait il y a rien qui est utile. Au client. L'email pour la livraison, si tu ne lui mets pas plus d'informations, bon bah oui, j'ai mon produit, je suis au courant, quoi, tu vois. Tu vois, la confirmation de commande, c'est important, mais ce n'est pas un email de suivi.
Il sait qu'il vient de commander aussi.
Il sait qu'il vient de commander. Non, mais la confirmation de commande, je pense qu'il faut le faire.
C'est hyper important,
de la rassurance, c'est de la réassurance, mais ce n'est pas un email de suivi. Par contre, le deuxième email qui renvoie le lien de suivi, bah, si c'est trop tôt, c'est pas bien non plus, parce que tu cliques et en fait, oui, bah, on n'a pas encore récupéré. Tu vois, tu connais ce truc-là.
Ouais,
on
n'a
pas encore récupéré. Bah, non, c'est pas ouf. Moi, ce que je recommande, c'est 5 emails de suivi. Pourquoi ? Parce que les emails de suivi sont ouverts et lus. Les gens, ça les intéresse, tu vois. Quand tu as commandé un produit, ils vont pas dire « Ah, putain, une pub en plus », tu vois. Déjà, ils sont... Alors, quand je dis qu'ils sont ouverts, ils sont ouverts à 70% du temps. Donc on va parler de comment utiliser ça. Ils sont ouverts à plus de 70% du temps. Nous, on a des clients qui ont du 85% d'ouverture de leurs emails. C'est énorme. Tu n'as pas un email marketing qui match ça. Et ils sont ouverts jusqu'à 4 fois par email. Parce que tu as des personnes qui ferment l'email et puis 3 heures plus tard, ils veulent savoir où est leur produit. Tu vois. Mais il faut les laisser, ces gens-là. Il faut les laisser ouvrir plusieurs fois les emails et cliquer plein de fois. S'ils kiffent, tu vois. Y a pas de, fin, voilà. Donc c'est pour ça, multiplier les emails. Moi, j'en conseille 5. Donc bon, on peut dire que la confirmation de commande en est un. La prise en charge à l'entrepôt. Donc ça, c'est quelque chose que les transporteurs ne font pas. Donc, nous, on est capable de le faire parce qu'on gère l'intégralité du flux. Donc on a commencé à préparer ta commande. On a remis ton produit au transporteur. Ton colis va être livré aujourd'hui. Ton colis est dans la main de ton livreur et va être livré bientôt. Et ton colis est livré. Moi, j'aime bien ces 5-là. Et par contre, ces 5-là, il faut les utiliser. C'est-à-dire que ça ne peut pas être juste... Donc déjà, c'est de l'informationnel. C'est très bien déjà d'avoir ça juste en informationnel parce que ça te permet de réduire la pression sur ton customer support. Et quand tu as une petite boîte, le customer support, c'est souvent toi. Donc ça réduit un peu la pression sur toi. Tu as moins de « où est mon colis ?» etc. Et derrière, c'est vachement bien parce que c'est une plateforme pour faire du marketing. Nous déjà, il n'y a aucun email où il y a des gros logos Big Blue dans tous les sens. Les emails, il y a les logos, le logo de la marque, il y a le branding de la marque, les couleurs de la marque, même le bouton du suivi du colis, c'est la couleur de la marque, c'est la marque qui décide. Tu vois. Et on leur laisse un encart où ils peuvent choisir, la marque peut choisir ce qu'elle va mettre. C'est un encart marketing. Ça peut être quelque chose pour envoyer vers un bon de réduction, un truc de parrainage, des trucs comme ça. Et ça convertit hyper bien. Bon, après, il y a des trucs un peu plus techniques. Sur le dernier email, on demande si ça s'est bien passé ou si c'est mal passé. Ça, c'est autre chose. Ensuite, nous, on a une page de livraison. Et ça, c'est quelque chose qu'on a développé récemment. Et la page de livraison, pareil, on veut que ce soit une plateforme marketing. Dans notre page de livraison, nous, on propose des produits similaires. Personne ne fait ça. Enfin, Chronopost, je ne pense pas qu'il fasse ça, tu vois. Donc, la marque, en fait, nous, on est connecté au Shopify et du coup, on va chercher les produits qui sont recommandés, qui sont le plus souvent associés avec les produits qui ont été achetés et on fait des recommandations directement dans la page de suivi. Donc, tu as évidemment les informations qui sont importantes, l'adresse, les produits qui ont été commandés, la situation. En fait, tu as une espèce de barre de chargement pour savoir où est le colis et des produits recommandés.
Ok. Ouais, en fait, en gros, ton expérience pendant la livraison, elle a lieu à 2 endroits. Évidemment, te tenir au courant, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est est-ce que tu gères la promesse que tu as fait à ton client de livrer à telle heure et qu'il sache où est-ce qu'il laisse son colis. Il n'y a rien de plus frustrant. Je sais que nous, on a, sur le site, on a vachement aussi cet enjeu-là où en fait, le client, tu lui dis, tu vas le livrer en 48 heures. ah ouais, mais en fait, à 48 heures, le gars, il est à sa porte. Et s'il n'a pas été livré, il te le fait savoir. Donc, c'est extrêmement important. Et après, tu as l'autre aspect qui est l'aspect de faire du marketing autour de ça parce que c'est ultra ouvert, c'est ultra utilisé et que les gens, ils sont ultra friands bah, de la data, de leur livraison. Et c'est un truc hyper important. Est-ce que tu vois d'autres choses pendant l'acte de livraison, avant la rentrée, enfin, pendant l'attente de ce colis, qui sont importants à bosser avant de passer sur la partie post-achat?
Bah alors, enfin, avant la livraison, non, mais ton colis, il est ultra important, si tu veux. C'est que c'est un peu du... C'est quasi du post-achat, ça importe les deux, mais si, finalement, ton colis en lui-même, il va générer la satisfaction ou de l'insatisfaction en fonction de la tronche qu'il a. Ça peut être notre passage à la dernière étape. Le colis, c'est le seul lien physique que tu as avec ton client. Quand tu fais du e-commerce, c'est le moment où tu peux lui mettre des surprises, tu peux lui mettre des goodies, tu peux lui mettre un mot qui est plus ou moins faussement écrit à la main, mais tu peux faire des trucs comme ça. Et en fait, tu as une vraie plateforme pour saucer tes clients finaux et en faire une expérience de ouf. Ça s'appelle l'unboxing. Tu as pas mal de marques. Si tu tapes des marques, je ne sais pas, Dermalogica, qui est un client à nous, unboxing sur Internet, tu vas trouver plein d'unboxing de Dermalogica sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, etc. Parce que c'est un truc, c'est quelque chose que les gens kiffent. Quoi. Un bon unboxing, ça te donne envie de faire des photos, ça te donne envie de les mettre sur Insta ou sur TikTok, ça te donne envie de recommander. Et là-dedans, bah, quand je te dis que c'est une plateforme, parce que tu peux personnaliser ton colis. Nous, on te le permet, mais il y a pas mal de manières, même si tu ne bosses pas forcément avec BigBlue, de personnaliser ton colis. Donc, mettre à l'image de ta marque, tes couleurs, ton logo, mettre un message de remerciement. Moi je conseille même dans ton colis de mettre, de demander, donc en fait, quand tu ouvres ton colis, à l'intérieur, d'imprimer les trois étapes une fois que tu as reçu ton colis. Donc tu ouvres, tu kiffes et tu partages. Donc tu demandes dans ton colis de partager des photos de toi qui fait l'unboxing. Tu vois. Tu peux très bien faire ça. Ça remplace un flyer, c'est écologique. Et c'est le premier truc que les clients finaux vont voir en ouvrant le colis.
Pardon.
Ensuite, le flyer, il est assez important parce que tu peux faire beaucoup de choses sur un flyer. Tu peux... raconter des choses sur ta marque, donc rendre les gens de plus en plus amoureux de ta marque. Tu peux mettre un message de remerciement, tu peux mettre un bon de réduction, tu peux mettre ton truc de parrainage. En fait, ce que je te disais tout à l'heure dans tes emails, tu peux aussi le mettre dans ton colis. Ça peut être aussi des guidelines pour utiliser le produit, ça peut être plein de choses. Tu vois, ça, faut jouer avec ça. Et les goodies, alors moi j'ai une petite histoire sur les goodies, c'est que nous quand on a lancé BigBlue, Morning, ma première marque, avec mes cofondateurs de l'époque, il y en a un des trois qui a eu une brillante idée, c'est de foutre des paquets de bonbons dans chaque colis. En fait, il a vu un énorme paquet de Haribo avec des petits paquets de Haribo dedans, il faisait avoir 500 ou 1000, il avait payé ça 20 balles, donc que dalle, ça devait être chez Metro, un truc comme ça. Il avait ramené, il avait dit, bah vas-y, on met ça dans les colis. Et en fait, les gens ont surkiffé. On en mettait dans tous les colis, ça nous coûtait rien. Les gens ont surkiffé, ils nous en parlaient. Parce que bah, c'est un truc en plus dans l'expérience. On vendait des jeux de société, donc rien à voir. Mais c'est une petite attention qui fait kiffer, tu vois. Je me souviens, j'avais commandé chez Bobby's il y a 3-4 ans, qui faisait ça à l'époque, je sais pas s'ils le font encore, mais juste mettre des bonbons. Alors, ils avaient fait des bonbons brandés Bobby's, nous c'était juste des Haribo, tu vois. Mais ça plaît, et parfois ça peut être des goodies de ta marque, ça peut être un truc en plus, je sais pas, tu fais des chaussures, mettre une paire de lacets, sans le dire à l'avance, tu vois. Genre, je mets une paire de lacets, et les gens sont contents, en parlent, etc. Donc, en fait, c'est une plate, et en fait, la limite, c'est ton imagination. Tu peux faire plein de trucs dans un colis, tu vois. Et puis la manière dont c'est packé, qu'est-ce que tu utilises pour packer ton colis, c'est aussi important. Nous, on met beaucoup de craft. On aime bien le craft, mais on a des alternatives au craft. On a un truc qui s'appelle le block box. C'est une espèce de moumoute, on dirait du mouton. Et du coup, tu mets ça et c'est tout fluffy, on dirait un petit nuage. Et c'est trop cool. Du coup, ça donne une expérience qui est un peu différente. C'est encore plus respectueux de l'environnement que le craft. Tu vois, tu as des alternatives. Tu vois, changer un petit peu tes manières de paquer. C'est assez cool.
C'est hyper intéressant et ça me rappelle une étude que j'ai lue il n'y a pas longtemps qui est que en fait, tu te rappelles d'une expérience que tu as eue avec la marque avec seulement deux étapes dans ton expérience. La première étape, c'est l'étape, le point culminant de ton expérience. Ça peut être le moment où tu as acheté ou le moment où tu découvres la marque ou autre. Ça change d'une marque à l'autre. Et le deuxième point, en fait, c'est la dernière étape. Et en e-commerce, la dernière étape, eh ben, c'est très souvent le moment où tu reçois ton colis.
Ouais.
Et donc, en fait, ce qui est sûr, c'est que dans cette chaîne-là, c'est le moment de la réception du colis qui est le plus important.
Ouais.
Écoute, on va essayer d'accélérer pour finir notre podcast parce que je sais que tu as un rendez-vous juste après. J'aimerais qu'on parle juste de la fin, ouais. de l'expérience de livraison, de logistique. Le moment où tu reçois ton colis, donc on a parlé un peu de l'unboxing du colis en lui-même. Je pense qu'il y a cette partie-là, un peu de la réception, et il y a aussi une partie un peu retour, bien comprendre comment fonctionne la partie retour. Est-ce que toi, tu as déjà d'autres choses à rajouter sur la partie réception du colis, expérience de réception, sans forcément qu'on ait envie de renvoyer le colis à ce moment-là, ou est-ce que c'est à peu près tout ce qu'on a sur ce sujet ?
Alors, je pense que tu as fait le tour. Une fois que tu as parlé de la réception, les retours, c'est la next step un peu naturelle. Nous, on demande, je te le disais dans le précédent podcast, on demande si ça s'est bien passé ou si ça s'est pas bien passé. Ça, je peux t'en parler hyper rapidement, si tu veux.
Vas-y, avec grand plaisir.
Donc en fait, demander si ça s'est bien passé ou si ça s'est pas bien passé dans le cadre d'un envoi, c'est assez important. Nous, on a une satisfaction qui est très élevée chez Big Blue. Enfin, les marques qui utilisent Big Blue ont une satisfaction qui est beaucoup plus élevée que la moyenne. C'est à peu près 92% de satisfaction quand tu utilises Big Blue. Mais pour autant, t'en as qui sont pas contents aussi. Et donc il y a deux choses. Nous, on est connecté à Klaviyo. On est connecté aussi à Zendesk ou Gorgias. Donc, mettons que t'as une personne qui dit bon, ça s'est bien passé, la livraison s'est bien passée. Dans ces cas-là, si la personne met un pouce vers le haut, automatiquement, tu peux déclencher un email Klaviyo pour demander. Tu dis, ça s'est bien passé ta livraison, est-ce que tu peux nous faire soit un UGC, soit nous mettre une note sur Google, sur Trustpilot, whatever. Tu peux déclencher des emails comme ça. Et une personne qui a déjà mis un avis positif est très très enclin à mettre un avis positif sur notre plateforme. Donc en fait, tu utilises ça pour pouvoir nourrir tes UGC, quels qu'ils soient. Et à l'inverse, quand ça s'est mal passé, parce que ça peut arriver, deux choses. Déjà, tu peux aussi déclencher un email Klaviyo avec Big Blue, c'est connecté. Tu déclenches un email Klaviyo, tu dis désolé, on va prendre en charge votre demande. Notre équipe est à fond sur le sujet. En attendant, tenez 10%, tenez 15% sur votre prochaine commande pour se faire pardonner. On déclenche automatiquement également, parce qu'on est connecté un ticket, sur les plateformes type Zendesk ou Gorgias, qui dit « Ah, attention, le client a une mauvaise expérience, il faut qu'un opérateur prenne en charge le problème. » Et du coup, ça améliore, mais x10, ton expérience quand ça s'est mal passé. Parce que tu as un email immédiat, on te dit qu'on a pris en charge ta commande, tu as ton problème, et en plus, tu as un ticket qui a été créé et une personne va te contacter automatiquement.
C'est assez impressionnant. Surtout que quand tu sais que, je ne sais plus c'était quoi les chiffres, mais un client non satisfait va en parler à 7 ou 9 personnes autour de lui, là où un client satisfait va en parler uniquement à 3 personnes autour de lui, en fait, la mauvaise presse va beaucoup plus vite que la bonne presse. Donc, en fait, tu as tout intérêt à, dans son malheur, qu'ils se disent, ouais, en fait, ils ont quand même été hyper bons à gérer mon malheur.
Bien sûr.
Quoi.
Mais en fait, tu transformes un client insatisfait en fan. Tu vois, et en fait, c'est plus un client satisfait. C'est une personne qui a eu un petit problème que tu as réglé.
Ok, du coup, maintenant qu'on a vu cette partie expérience et qu'on a transformé nos ennemis, mais en tout cas les gens pas très contents en fans, il y a quand même un élément du coup assez important, c'est la partie retour. C'est souvent un cauchemar à gérer quand tu es un e-commerçant. C'est quoi, toi, tes bonnes pratiques sur la partie retour ? Comment on gère ça correctement ?
Ouais, donc déjà, accepter les retours, c'est hyper important et faciliter derrière les retours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit caché, que la méthode de retour soit cachée dans les conditions générales de vente avec un process ultra compliqué, etc. Pour moi, il faut le mettre en évidence dans ton process de tracking, que ce soit sur ta page de tracking ou dans tes emails de tracking suivi, pardon. Sur ton bon de livraison, la manière de faire des retours, un peu partout, sur le site aussi. C'est-à-dire si la personne va sur le site et qu'elle cherche, elle doit pouvoir trouver process retour, bam, je tombe sur la bonne page. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met carrément un QR directement sur le bon de livraison que tu peux flasher avec ton téléphone. Ça trouve une page qui est optimisée mobile, d'ailleurs qui n'est optimisée que mobile. Ça t'ouvre une page et dedans, tu as directement ta commande parce que le QR code change à chaque bon de livraison. Donc c'est un QR code qui est propre à ta commande. Et du coup, tu vas voir directement les produits qui sont dans ta commande, les produits que tu veux renvoyer, tu peux les sélectionner. Tu peux sélectionner les raisons pour lesquelles tu veux les renvoyer. Nous, on permet aussi de renvoyer ultra facilement. Il n'y a que 30% des Français qui ont une imprimante, des Européens qui ont une imprimante. Donc, on fait du printerless. Je t'en avais parlé lors du précédent podcast. Donc, en fait, au lieu d'obliger les gens à imprimer, à coller, etc., à trouver une imprimante ou un truc comme ça, ils vont directement à la poste. Et ça, on le fait en France, en Espagne, en Angleterre. Et ils vont directement à la poste, ils scannent. Et ils peuvent retourner leurs produits. Pour moi, ça, c'est les best practices. En fait, nous, on ne fait que des best practices pour les retours. Après, y a un best practice sur les remboursements. Nous, on propose, et on fait un peu comme Deliveroo là-dessus, on s'est plus inspiré que Deliveroo que d'Amazon. C'est-à-dire qu'on propose soit d'être remboursé, et là, tu as un délai, parce que tu as les délais de carte, de processing de carte, etc. Soit d'obtenir un bon. Donc, ce qu'on appelle un store credit qui est automatiquement généré sur ton site et que la personne peut réutiliser. Ce qui fait que la personne va retourner sur le site, voir les nouveaux produits, revit l'expérience et elle a un bon de réduction. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil de dépenser un bon que de dépenser de l'argent sur ta carte. Tu as déjà dépensé ces 100€ du bon et du coup, il y en a beaucoup qui font de l'upsell. Nous, on a 40% des bons de réduction qui sont liés à ce process de retour où les gens font de l'upsell.
Est-ce que, justement, ce bon de réduction, est-ce que tu peux te permettre, par exemple, de dire il sera 10% de plus que le montant de votre commande si vous le transformez, par exemple, en bon de réduction ?
Pas aujourd'hui. Mais ça pourrait, hein, ça pourrait. On est en train d'explorer des manières de l'améliorer. Toujours pareil, amélioration constante, quoi.
Non, c'est clair, mais je trouve que ça pourrait être hyper intéressant de dire faites-vous rembourser, vous avez 100% de votre montant. Ouais. Racheter avec du store credit, vous avez 110% de votre montant ou 115%, enfin, peu importe ce que le site veut mettre en place.
Tu vois, on n'a même pas besoin de le faire parce qu'on a déjà 60% des gens qui choisissent le store credit versus le remboursement classique. Donc, c'est qu'il y a. En fait, la plupart des personnes qui retournent un produit, très souvent, c'est pour changer, hein. C'est pour en racheter. Hein. C'est pas juste pour se faire rembourser. Mmh. Ça arrive. Donc, du coup, dans 40% des cas, et ben dans ces cas-là, ils sont remboursés, il n'y a pas de souci.
Ok. Et une fois que tu as fait ton retour, tout s'est bien passé sur ta plateforme, tu renvoies ton colis même si tu n'avais pas ton imprimante. Il y a quand même un élément qui est important, c'est, je le vois moi sur le site, c'est les gens ils me demandent toujours il est où mon argent, il est où mon remboursement, il est où mon colis.
Du suivi sur les retours. Nous, on fait le suivi sur l'aller et le retour. Et ça, c'est un truc que peu de marques font. D'assurer le suivi du retour, d'envoyer des emails. Pareil, nous, c'est des super emails à l'image de la marque. Tu peux suivre ton retour. Donc, tu sais exactement où c'est. T'es pas dans le noir, quoi.
Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu voyais d'autres points sur la partie logistique, optimisation, sur un des trois aspects ou d'autres aspects qu'on n'aurait peut-être pas abordé?
Il y en a peut-être d'autres, mais je ne les ai pas en tête. Et ce sera peut-être l'occasion de se refaire un podcast
ce sera avec grand plaisir.
Dans 9 mois.
On fera ça. Ce que je te propose aussi, c'est que tu pourras m'envoyer ça par mail. Je rajouterai ça dans le récap que j'ai dans les épisodes. En tout cas, merci beaucoup, Tim. Pour ceux qui veulent écouter les trois derniers points de ce que je pose, la question que je pose à tous mes invités à chaque fois, ils pourront l'écouter dans le premier podcast où tu avais déjà répondu à mes trois questions. Et puis, je te souhaite une excellente journée et merci pour ton temps.
Toi aussi. Allez, à plus.
Salut, ciao.
J'espère que cet échange vous a plu et vous sera utile. D'ailleurs, vous trouverez en description de cet épisode une fiche récapitulative qui résume tous les éléments clés de l'épisode. Pour y accéder, suivez simplement le premier lien en description. Si vous avez apprécié l'épisode, pensez à le partager à 3 personnes de votre réseau. Cela pourrait les aider autant que cela vous a aidé. Si vous souhaitez être accompagné par Seos pour enfin maximiser la rentabilité de vos budgets Google Ads, vous pouvez vous rendre sur le site seos.fr ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. On se retrouve lors du prochain épisode. Salut !J'espère que cet échange vous a plu et vous sera utile. D'ailleurs, vous trouverez en description de cet épisode une fiche récapitulative qui résume tous les éléments clés de l'épisode. Pour y accéder, suivez simplement le premier lien en description. Si vous avez apprécié l'épisode, pensez à le partager à 3 personnes de votre réseau. Cela pourrait les aider autant que cela vous a aidé. Si vous souhaitez être accompagné par Seos pour enfin maximiser la rentabilité de vos budgets Google Ads, vous pouvez vous rendre sur le site seos.fr ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. On se retrouve lors du prochain épisode. Salut ! J'espère que cet échange vous a plu et vous sera utile. D'ailleurs, vous trouverez en description de cet épisode une fiche récapitulative qui résume tous les éléments clés de l'épisode. Pour y accéder, suivez